Chapitre 3. La vue de son corps gelé me glace. Le souvenir de son rire m'enchante. Ses paupières dérobent l'éclat de ses yeux. Ses cheveux dansent sous un soleil occulte. Elle repose inerte, comme morte. Elle veille sous l'angoissante blancheur. Aucun mot ne sort de ses lèvres pâles. Et pourtant, elle me hèle à travers le temps. Le chant à l'absente provisoire, anonyme d'Utgen, traduit par Messaoudin Djoupiet, poète syracusain de la première période post-Angempire. Le soleil brillait de tous ses feux dans l'azur du ciel, mais sombre était le cœur de Jack Atkin, assis sur la rive du torrent dans lequel il s'était baigné avec Yel. Les poils commençaient à lui pousser sur les joues, sur les jambes et sur le bas de son ventre. Sa voix muait, mais plus le temps passait, et plus Yel prenait possession de lui. Il entendait son rire moqueur dans les sifflements du vent. Il voyait la flamme dorée de sa chevelure dans les frondaisons. Il se baignait dans les lacs gris-bleus de ses yeux. Il distinguait sa silhouette dans les effluves de chaleur. Il touchait sa peau tiède et dorée sur les rochers gorgés de soleil. Les paysages, les couleurs, les odeurs de terra mater étaient imprégnées de Yel. Chaque parcelle du monde où elle avait vécu s'ingéniait à ressusciter son souvenir. Ce n'était certes pas une fille ordinaire, elle n'avait pas la langue dans sa poche, et les mots qui sortaient de sa bouche étaient aussi affûtés et blessants que des flèches. Mais plus il s'efforçait de lui trouver de défauts, et plus elle se parait de qualité. Le Mahdi Shari lui avait appris que son petit corps congelé avait été exposé en compagnie des corps de Nayafikit, San Francisco et Phoenix, dans un palais de Vénitia ouvert au public, puis qu'ils avaient été remis tous les quatre au moufti de l'église du Kreutz et installés dans une pièce secrète du palais épiscopal. Une boule d'angoisse s'était gonflée dans la gorge du petit Anjorien. « Qu'est-ce qu'il veut en faire ? » avait-il demandé. « Les brûler ?»«
Je ne crois pas, » avait répondu Shari. Le sénéchal Arcot a refusé de remettre leur code criot au moufti, et l'église creudienne ne les jugera pas tant qu'ils n'auront pas été ranimés.
« Pourquoi ? C'est pourtant plus facile de condamner les gens quand ils ne peuvent pas se défendre. Les creudiens ne se sont pas gênés pour gazer le terrarium des Quarantins. »
L'Église aime faire des exemples et orchestrer des agonies théâtrales. Or, la mise à mort d'un hérétique congelé ne serait ni un exemple, ni une agonie théâtrale.
Pourquoi ne partons-nous pas les délivrer ?
Avait demandé Jack après avoir marqué un temps de silence.
Pour trois raisons,
avait répliqué le Mahdi Shari.
La première, c'est que nous ne disposerons que de très peu de temps, et que nous devons faire preuve d'une très grande maîtrise pour coordonner notre action. Or, tu as encore besoin de t'exercer pour dominer à la fois le voyage psychokinétique et tes émotions. La deuxième, c'est que nous devons éviter de nous précipiter dans la souricière tendue à notre intention par le sénéchal Arcot. La troisième, c'est que les quatre codes criots, séparés les uns des autres, change d'emplacement chaque jour. Nous partirons lorsque je serai sûr de mes informations. Et sûr de toi.
Jack crut entendre un bruit derrière lui. Il n'aimait pas se retrouver seul sur cette planète déserte. Il avait l'impression que des hommes masqués de blanc allaient surgir de partout à la fois et se saisir de lui comme il s'était emparé de Yel, de Nayafikit, du prince San Francisco et de Phoenix. Il se retourna, mais ne distingua rien d'autre que les premiers contreforts du massif des Imlias. Les ramures bruissaient sous l'effet d'une douce brise, et les oiseaux assoupis se faisaient avares de leurs trilles.
Dans le lontain se dressaient, hautains et vigilants, les pics vêtus de neiges éternelles. Le Madhishari s'en était allé à l'aube rendre une visite à Oniki et Taoufraïm, sur la lointaine planète Éphraine. Il avait confié à Jek qu'il n'apparaissait pas à la tutale proscrite et à son fils, surveillé en permanence par des skate lecteurs et des mercenaires de Prithive, en poste sur l'île de Psalion, mais qu'il restait immatériel, tapis dans les couches subtiles de l'éther, s'interdisant formellement d'établir un contact qui aurait pu trahir sa présence et les mettre tous les trois en danger. Il lui fallait plusieurs jours pour recouvrer son entrain lorsqu'il revenait de ses expéditions. Jek n'aurait jamais cru que le Madhishari, le demi-dieu en haillon qui était descendu du ciel sur un rayon de lumière, pût être en proie à la détresse, au chagrin. Le petit Anjorien avait ressenti le même étonnement lorsque, quelques 3 années plus tôt, Naya Fikit s'était mise à pleurer après avoir évoqué Sri Lumpa. Il avait cru que ce genre de sentiment ne s'appliquait qu'aux simples mortels, comme lui, et il se rendait compte que les êtres de légende, les derniers espoirs de l'humanité, souffraient également dans leur chair et dans leur âme. Cette constatation l'inquiétait et le rassurait à la fois. L'inquiétait parce que leur sensibilité, leur fragilité semblait incompatible avec la force de caractère que requérait leur mission. Le rassurait parce qu'il ressentait humain et donc mieux disposé à comprendre et représenter les hommes. Jek repensait parfois à Pa et Manhatskin, ces deux créatures ordinaires dont il avait de plus en plus de mal à reconstituer les traits. Lors de ces périodes d'abattement, de puissants vents de nostalgie le poussaient à travers l'immensité spatiale et le ramenaient sur la triste et froide Utgen. Son monde natal se vêtait alors de couleurs vives, de chaleur et de gaieté, et lui apparaissait soudain comme la plus belle planète de l'univers connu. Puis il se disait que s'il était resté à Anjor, il n'aurait pas connu Yel, et Utgen lui était révélée sous son véritable jour, dans ses oripeaux de froidure et de grisaille. Bien que le Madhishari ne lui eût pas encore permis de se promener seul dans les couloirs éthériques, il estimait avoir une maîtrise suffisante du voyage psychokinétique pour s'aventurer dans l'immensité spatiale. Il mourait d'envie de rendre une petite visite à Pa et Manhatskin, au moins pour leur montrer que leur fils unique avait survécu au gazage du terrarium nord d'Anjor, qu'il était devenu un guerrier du silence, l'un de ces êtres héroïques qui se transportaient d'un point à l'autre de l'univers par la seule force de la pensée. Il savait, sans vouloir se l'avouer, qu'il était davantage mu par un sentiment d'orgueil que par un reliquat d'affection filiale. Il voulait leur prouver qu'il s'était trompé. Il avait bien fait de quitter le nid familial et de suivre les conseils d'Arthrarak, le vieux quarantin. Man interromprait ses activités de nettoyage pour le contempler avec admiration, et Pa gonflerait les joues comme lorsqu'il montrait à ses invités l'étroite bande de terrain qu'il appelait le jardin. Et qui sait, il renierait peut-être le monstre creudien qui leur dévorait le cœur et l'âme. Il se leva et prit la direction du village. Le Mahdi et lui avaient élu domicile dans l'ancienne maison de Sri Lumpa, que Shari s'obstinait à appeler « mon père Tixu ». Depuis qu'il avait la possibilité de se déplacer sur la vibration de l'antra, Jake appréciait particulièrement la marche à pied, le plaisir simple de se confronter à la matière, de fouler la terre, de sentir les baisers du soleil sur sa peau, de respirer l'air tiède et chargé d'odeurs. Les herbes folles avaient envahi l'ancienne rue principale du village, et les constructions alignées disparaissaient sous une végétation luxuriante. On ne distinguait plus que des fragments de charpente des toits effondrés et le haut des murs de pierre. les paires en part de ronces qui s'étaient formées autour du buisson du fou, ne dissuadaient pas Jack d'aller régulièrement se recueillir devant les fleurs diamantines et perpétuelles. Là, tandis que le courant de ses pensées le ramenait immanquablement vers Yel, il percevait l'horrible bruit du blouf, une rumeur à la fois lointaine et distincte qui lui glaçait le sang. Il ressentait dans sa propre chair l'agonie de l'univers, au point qu'il avait parfois l'impression d'être lui-même rongé par l'invisible adversaire des hommes. Le grand univers n'est qu'une projection des petits univers, avait lâché le Madishari, à qui il s'était ouvert de son inquiétude. Ses propos sibyllins avaient davantage soulevé de questions qu'il n'avait apporté de réponse dans l'esprit du petit Anjorien qui, bien qu'attendant des commentaires un peu plus explicites, n'avait plus osé déranger son interlocuteur claquemuré dans un silence renfrogné. À chaque fois qu'il parcourait les trois sentiers creusés au milieu de la rue principale, la même frayeur le saisissait que lorsque Yel et lui avaient découvert, étendus au milieu des fruits séchés, les corps cryogénisés de San Francisco et de Phoenix. La même atmosphère figée, ensorcelée, ensevelissait le village. Les battements de son cœur s'accéléraient au fur et à mesure qu'il s'approchait de la maison de Srilumpa et Nayafikit. Il s'attendait à voir un homme nu surgir de l'embrasure de la porte et braquer une arme gelante dans sa direction. Marty de Kervaler, le serviteur du Blouf, s'était pourtant suicidé, et des déromates mobiles avaient téléporté sur Syracusa les mercenaires de Prithive et les quatre corps inertes. Personne n'était informé de la présence du Madishari des Imlias et de Jack Atkin sur Terra Mater. D'ailleurs, selon les propres paroles du monstre caché de Marty, le Madishari était considéré à 89% comme un produit de la conscience collective humaine et n'avait pas d'existence réelle. Le bouclier protecteur déployé par l'Antra tenait à l'écart les Skyte lecteurs et les autres curieux. Mais cela n'empêchait pas l'Anjorien d'être saisi d'effroi lorsqu'il franchissait le seuil de la maison. Il revoyait sans cesse le corps de Yel, allongé sur les dalles de l'entrée, son visage enfoui sous les plis de sa robe retroussée. Et la tristesse le recouvrait comme une aile sombre et froide. Des relents de légumes et de fruits pourris flânaient dans la maison. Pendant 3 ans, le Madishari et Jack avaient survécu sur les réserves amassées par les pèlerins puis par Srilumpa et Nayafikit. Ils n'avaient eu ni le temps ni la volonté d'effectuer de nouvelles cultures, ou même de disposer quelques fruits des dernières récoltes dans les caissons de déshydratation. Ils n'en souffraient pas l'été, une saison où la nature déployait à profusion ses largesses. Mais ce manque de prévoyance se faisait cruellement sentir durant l'hiver, où ils devaient se contenter de bouillons de légumes chancis et d'un pain fabriqué avec une farine sûre, humide et grumeleuse. Quant à l'eau du puits, elle croupissait et prenait avec le temps une redoutable saveur de moisissure. Jack regrettait parfois la table de Man Atkin, les fruits et légumes fades des fermes communautaires du Djen, et même la mère soupe au pois que pendant des années, ses parents l'avaient obligé à ingurgiter jusqu'à la dernière cuillerée. Son sentiment de solitude ne le quittait jamais, et se faisait particulièrement accablant lorsque le Madishari partait pour des voyages, qui parfois duraient plusieurs jours.
« Ne bouge pas jusqu'à mon retour. Ici, protégé par l'Antra, tu ne risques rien. »
Livré à lui-même, l'Anjorien repoussait tant bien que mal la tentation d'enfreindre les consignes de Shari et de gagner un monde habité, un monde où il pourrait faire des choses aussi stupides que battre le pavé, errer dans les rues, se faufiler au milieu d'une foule et contempler des vitrines. Les transferts psychokinétiques, un mot qu'il affectionnait pour son aspect à la fois barbare et mystérieux, effectué sous la supervision du Mahdi, le conduisait toujours sur des planètes désertes. Les excursions dans les couloirs impalpables de l'éther,
lui procuraient des sensations vertigineuses, grisantes. Mais il était déçu de se rematérialiser sur le sable brûlant d'un ergue, sur l'herbe mauve d'une plaine infinie ou sur la grève d'un océan noir et brumeux. Le grouillement humain lui manquait, à lui qui avait passé toute son enfance dans une ville de plusieurs dizaines de millions d'âmes.
Il entra dans la pièce qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et de pièce d'exercice. Il y régnait une fraîcheur apaisante en regard de la fournaise extérieure. Il saisit un fruit dans la corbeille posée sur la table et s'assit sur un tabouret face à la cheminée d'où s'exhalait une sempiternelle odeur de cendre froide. Comme à chaque fois qu'il se retrouvait seul, il n'avait pas pris de bain et n'avait pas lavé ses vêtements dans le torrent, une manière dérisoire d'affirmer son indépendance face à l'autorité parfois cassante du Mahdi. Il vogua un long moment sur la mer tourmentée de ses pensées, et le fruit avait une saveur tellement désagréable qu'en dépit de sa faim, se laissait dépérir de faim, une autre façon d'affirmer son autonomie. Il le jeta à peine grignoté par une fenêtre entr'ouverte. Il resta immobile jusqu'à ce que le soleil s'abîme à l'horizon, dans un éclaboussement de rosaces et de stries pourpres. Il prit sa décision lorsque les ténèbres entreprirent de cerner la maison. Le Mahdi n'était pas revenu et il ne s'imaginait pas passer la nuit seul sur Terra Mater. Il ne dormirait pas comme d'habitude et son insomnie se peuplerait de créatures fantomatiques et terrifiantes. Les murmures de la brise seraient les souffles des harpies posées sur le toit. Les stridulations d'insectes résonneraient comme autant de cliquetis barbares. Les bruissements des frondaisons se mueraient en cœurs infernaux. Les craquements des chevrons trahiraient l'approche d'un tueur sournois. Et la vibration protectrice de l'antra ne serait d'aucune efficacité contre ces ennemis-là. À l'aube, il aurait honte de ses frayeurs nocturnes et se promettrait qu'il ne se laisserait plus prendre au sortilège de la nuit. Il se rendait compte qu'il tardait à sortir de l'enfance, et que c'était peut-être à cause de ce refus de grandir que le Mahdi Shari différait leur départ. Il lui fallait libérer son esprit des souvenirs qui le hantaient, et pour cela retourner sur Ujjain, revoir le marché de Rakamel et le quartier d'Otchanjor, embrasser une dernière fois pas aimant Atskin. Ce projet, qui n'avait été d'abord qu'un rêve un peu fou, s'imposait maintenant à lui avec la force de l'évidence. Toujours assis sur le tabouret, il tenta d'établir le silence intérieur. Cette étape lui prit beaucoup plus de temps que de coutume, probablement parce qu'il transgressait pour la première fois les ordres de Shari, et que le sentiment de culpabilité l'empêchait de se relâcher, de s'immerger dans les profondeurs apaisées de l'esprit. Il rouvrit les yeux et s'aperçut avec étonnement qu'une encre noire, dense, avait envahi la maison. Un crépitement caractéristique l'avertit qu'une averse orageuse s'acharnait sur le village. Pendant quelques secondes, il fut tenté d'allumer une bougie, tant les ténèbres profondes et l'humidité le pressaient. Mais il se contenta de réprimer un frisson et de clore les paupières. Ses pensées se dispersèrent tout à coup, comme poussées par un vent puissant, et l'antra, le son de vie, s'éleva dans le silence de son temple intérieur.
« La façon dont tu les perçois est personnelle », avait précisé Shari. « Mon père Tixou m'a raconté qu'à ses débuts, il les voyait comme des filtreurs de particules d'un vieux déromate. Et vous, comment les voyez-vous ?
Comme des éclats de l'amour de Nikki. » Jake s'engouffra dans la première bouche et eut la sensation d'être happé par un flot d'énergie infinie. Pendant un temps qu'il aurait été incapable d'évaluer, il fusa sur le courant des terres, éprouvant une jouissance indescriptible. Son corps ne fut plus qu'un principe brûlant, volatile, fluide. Et après que l'eut effleuré une ultime pensée pour une adorable petite peste du nom de Yel, il perdit toute notion d'espace et de temps. Le skaïte Kyax, des échelons supérieurs, vêtu de la cabas rouge de la Sainte Inquisition, s'efforçait de ne pas perdre de vue la petite silhouette qui se faufilait agilement entre les étals du marché de Racamel. Il aurait été plus simple de la laisser prendre de l'avance et de suivre à distance son empreinte mentale. Mais Kyax s'avérait incapable d'entrer dans son esprit. L'attention du skaïte avait d'abord été attirée par l'étrange accoutrement de l'enfant, vêtu d'une tunique et d'un pantalon de coton inusuel sur Eugen. Or, le contrôle exercé par l'église du Kreuz et les skaïte-lecteurs sur les déromates des compagnies de transfert rendait les voyages difficiles entre les planètes de Langempire. Et un garçon de 12 ans ne serait pas parvenu à forcer le triple barrage dressé par les vérificateurs mentaux, financiers et physiques. Peut-être aurait-il pu recourir au service d'un réseau clandestin, mais à en juger par sa tenue sale et chiffonnée, il ne venait pas d'une famille aisée, et les transferts pirates coûtaient de véritables fortunes. Bien qu'il portât des vêtements étrangers, il semblait connaître parfaitement le centre d'Anjor, car il enfilait les rues sans la moindre hésitation. Intrigué, Kyax avait immédiatement entamé un travail de perquisition dans le cerveau de ce garçon, mais il s'était heurté à une onde constante et compacte qui dressait un infranchissable rempart. Il était demeuré un long moment dans l'incapacité de prendre une décision, comme déconnecté. C'était la première fois qu'un esprit humain refusait de s'ouvrir, de lui livrer ses secrets. Il avait insisté, mais la vibration s'était amplifiée et l'avait contraint à battre en retraite. Davantage que la douleur, concept abstrait pour les skaïtes, les implants cérébraux de son encéphale avaient capté la puissance latente de cette barrière sonore. Elle résonnait comme une menace pour son principe vital, et par extension pour le principe vital de tout l'hyponéros. Il avait sollicité un entretien mental d'urgence avec le skaïte Orax, conseiller personnel du cardinal-gouverneur Xandius de Mermer et grand inquisiteur de la planète Eugen. « J'espère que vous avez de bonnes raisons de me déranger, germe Kyax, » avait répondu Orax. « Nous entrons dans la dernière phase du plan et chacun est censé connaître son rôle. » Un élément nouveau. Je suis actuellement sur les traces d'un enfant dont le cerveau, protégé par une barrière vibratoire, reste impénétrable. Un utigénien. La question absurde pour un skaïte relié en permanence aux données basiques de la cuve prit Kyax au dépourvu. Il marqua un long temps de pause avant de répondre. Comment le saurais-je, puisque je n'ai pas eu la possibilité de lire en lui? Ses vêtements tendraient à montrer qu'il vient d'un autre monde, mais il semble bien connaître Anjor. Continuez de le suivre, germe Kyax. Il y a une probabilité, faible mais réelle, que cet enfant soit un suppôt de la science indique, un humain source. La barrière vibratoire à laquelle vous faites allusion évoque certaines techniques de protection des sorciers de Linda. La cuve ne vous a-t-elle pas assuré que les ennemis ultimes de l'Hyponéros avaient été neutralisés? La mission Kervaleur programmée par le sénéchal Arcot n'a-t-elle pas été annoncée comme un succès total, définitif? Nous avons affaire à des humains, germe Kyax, à des créatures qui échappent à la pure logique. Cet enfant a très bien pu se glisser à travers les mailles du filet. Son statut de guerrier du silence donnerait en tout cas une explication cohérente à sa présence sur Eugen. Précisez, je ne saisis pas les tenants et les aboutissants de votre raisonnement. Je n'étais pas aussi stupide que cela en vous demandant si cet enfant était utigénien, germe Kyax. Précisez.
La légende populaire prétend que les guerriers du silence voyagent sur leurs pensées.
Je comprends. Ils ne seraient pas obligés de recourir au service des compagnies officielles ou des réseaux de passeurs clandestins pour se transférer d'un monde à l'autre.
Honnête guerre rapide, germe Kiax. Tâchez donc de l'être un peu plus pour ne pas perdre cet enfant de vue. Nous resterons en communication prioritaire et permanente.
Une dernière précision. Quelles sont, d'après la cuve, nos probabilités d'avoir affaire à un guerrier du silence?
La curiosité est une caractéristique humaine, germe Kiax. Cependant, pour vous encourager, sachez que le pourcentage est brusquement passé de 0,07% à 26%.
Fort heureusement, l'enfant s'arrêtait de temps à autre devant un étal pour contempler, avec des lueurs d'envie dans les yeux, les quartiers de viande suspendus à leurs as, les fruits et légumes disposés dans des cagettes plates. Ces haltes permettaient à Kiax de combler les quelques mètres de retard que la foule creusait entre le garçon et lui. La terreur figeait les traits des employés des fermes communautaires lorsque la cabas pourpre venait frôler leur éventaire comme un nuage de sang. Les implants cérébraux du Skaït captaient des impulsions convulsives de panique et de culpabilité. Les humains avaient toujours quelque chose à se reprocher. L'exploitation du sentiment de culpabilité était d'ailleurs l'un des axes majeurs du plan. Car se sentir coupable, c'était déjà se couper de sa source. Et Kiax aurait pu sur le champ confondre les trois quarts d'entre eux. Cet homme, par exemple, qui s'obstinait à adorer des dieux païens au milieu d'une forêt. Cette femme, qui organisait chez elle des rites orgiaques de l'ancienne religion de l'âge prime. Cet autre qui utilisait les serres de la communauté fermière où elle travaillait pour se livrer à d'inavouables trafics. Cependant, la filature du garçon mobilisait toute son énergie, et le moment n'était pas venu d'expédier ces misérables sur les croix de feu ou dans un office d'effacement. Il ne perdait rien pour attendre. Kiax reviendrait plus tard, s'engouffrerait avec avidité dans leur cerveau, exhumerait tous leurs manquements au dogme creudien. Il fallait reconnaître aux humains cette admirable faculté de prescrire des règles restrictives contraires à leur nature, et donc impossibles à observer, et les ferait convoquer devant le tribunal de la Sainte Inquisition. L'enfant quitta enfin l'enceinte du marché et emprunta une ruelle qui débouchait sur l'esplanade des Saint-Sulpice. La foule se clairsemait sur le parvis du temple, où se dressaient des croix de feu éclairées par des projecteurs de sol. Ce système d'éclairage permanent était le fruit de l'imagination de l'ancien gouverneur du Djen, le cardinal Fraciste Bog, élu depuis moufti de l'Église. Les faisceaux lumineux soulignaient les corps écartelés par les souffleries et permettaient de constater qu'ils en étaient à des stades différents de calcination. Les uns n'étaient plus que des masses informes de chair boursouflée, purulente. D'autres commençaient seulement à se dépouiller de leurs cheveux et de leur apparence humaine. D'autres, enfin, intacts, n'était-ce le teint rougeâtre qui leur enflait la peau, avaient encore assez de force pour se tordre de douleur sous les intolérables caresses du feu pulsé. Ils étaient trop asséchés pour laisser couler des larmes, mais l'insupportable souffrance se lisait dans leurs yeux exorbités, et leur bouche entr'ouverte laissait échapper des gémissements inaudibles. Les hommes témoignaient également d'une ingéniosité incomparable pour torturer leurs semblables. La notion de cruauté était étrangère à l'hyponéros. Les Skaïdes se contentaient d'effacer l'humanité, elle et son champ d'action, parce que telle était la tâche pour laquelle ils avaient été conçus, et ils la remplissaient avec la froide efficacité qui les caractérisait. Dernière probabilité, 94,06%.
L'enfant s'immobilisa au pied d'une croix de feu et contempla le supplicié pendant quelques minutes. Un homme jeune dont les muscles imposants et bandés ne parvenaient pas à infléchir les flux d'air concentrés qui maintenaient écartés ses bras et ses jambes. Kiax se posta quelques pas, feignit d'admirer les tourelles effilées, élégantes, du temple creutzien, et en même temps effectua une rapide incursion dans le cerveau de l'hérétique. Il eut l'impression, une réaction significative de ses implants cérébraux plutôt qu'une véritable impression, de pénétrer dans un volcan en éruption où la douleur était un grondement sourd et les pensées des gerbes de lave en fusion. Cela ressemblait assez fidèlement à une dissolution dans la cuve matricielle, et Kiax rencontra quelques difficultés à donner une cohérence à l'ensemble. Il découvrit cependant que l'homme pensait à un autre homme, son ancien amant plus exactement, et que, animé par un ultime et incompréhensible sentiment de pudeur, il tentait désespérément de placer ses mains en paravent devant ses organes de reproduction. Jack avait d'abord été heureux de revoir Anjor, de respirer l'air saturé d'humidité de sa planète natale, de marcher dans les rues étroites et bordées de bâtisses aux façades écaillées, d'entrevoir l'œil rouge d'Arès, le soleil déclinant, sous l'épais manteau de brume, d'entendre les grondements sourds des tubes du réseau de transport anjorien, de croiser les silhouettes silencieuses et furtives des passants. Il s'était rematérialisé directement dans les faubourgs de la cité, non loin de l'ensemble de bâtiments qui se dressaient sur l'ancien site du Terrarium Nord. Il ne restait rien de la porte monumentale du ghetto et des innombrables puits de descente qui desservaient les tunnels d'accès au terrier des Quarantins. L'église de Kreutz avait fait construire un temple à 100 tourelles, un palais résidentiel et une école de propagande sacrée. Les souvenirs des longues heures passées dans le terrier d'Arthrarak, le vieux Quarantin à la voix d'or, avaient afflué dans l'esprit de Jack, épuisé par sa longue translation. Il n'avait aucune idée de la distance qui séparait Terra Mater du Djen, car ses connaissances astronomiques se limitaient à quelques notions rudimentaires sur le système d'Arès et ses environs. Mais il n'avait pas eu besoin d'observer des pauses intermédiaires de récupération, comme c'était souvent le cas lors des services imposés par le Mahdi. Avant même de reprendre conscience, il avait su qu'il était arrivé à destination. Il était resté un long moment prostré sur les pavés humides, en proie à un terrible mal de crâne, aussi faible qu'un nouveau-né, incapable de reconstituer l'intégrité de son être. Il avait entrevu des formes mouvantes autour de lui, des uniformes et des akabas de différentes couleurs. Il avait eu l'angoissante sensation que l'antra ne le protégeait plus, que des pensées étrangères ondulaient comme des tentacules dans son esprit ouvert. « Tu es tombé? Tu t'es fait mal ?» avait murmuré une femme sans âge penchée sur lui. Il s'était redressé comme piqué par une aiguille, avait remué la tête en signe de dénégation, avait filé sans demander son reste. Il avait de nouveau perçu la vibration rassurante de l'antra. Sa migraine s'était estompée, et il s'était peu à peu détendu. Ses pas l'avaient spontanément porté vers le centre de la cité, vers le marché de Rakamel. Il avait alors décidé de refaire à pied les 7 kilomètres de l'itinéraire qu'il avait suivi à maintes reprises quelques années plus tôt. Au sortir de la place des Saint-Supplice, il avait emprunté l'interminable et sinueuse avenue qui menait au quartier d'Ot-Anjor. Les premiers moments d'euphorie passés, il avait commencé à regretter son initiative. Il ne pouvait se départir de la sensation qu'un danger sournois planait au-dessus de sa tête, mais le transfert aller lui avait coûté une telle débauche d'énergie que son organisme réclamait un temps de récupération et qu'il n'avait pas pour l'instant la capacité d'entreprendre le trajet retour. L'aspirant Jack Atkins
était loin de maîtriser les subtilités du voyage psychokinétique. Il n'entrevoyait plus qu'une solution, reprendre contact avec ses parents, s'accorder une nuit de repos dans la maison familiale et repartir le lendemain. Il sentit la brûlure d'un regard sur sa nuque.
Il jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule, mais la grisaille et la brume perpétuelle l'empêchèrent de déceler un éventuel adversaire parmi les silhouettes qui déambulaient derrière lui.
Instinctivement, il pressa le pas.
Le jour déclinait et les lampadaires mobiles s'emplissaient de lumière blanche. Il passa devant plusieurs bornes du RTA, mais s'interdit de descendre dans une station souterraine pour prendre un tube, car la clandestinité s'accommodait mal avec la foule, la lumière et la surveillance renforcée. Il atteignit sans encombre Ottanjor, un quartier historique et résidentiel qui se caractérisait par ses maisons à demi enterrées et ses ruelles fortement déclives. Il transpirait abondamment en dépit de la fraîcheur humide du crépuscule. Il se retourna pour la centième fois, mais ne repéra rien d'inquiétant ou même de simplement insolite dans la pénombre environnante. Il se dit alors que cette anxiété persistante, due à la solitude et à la fatigue, était le prix à payer pour la conquête de son autonomie. Des larmes vinrent aux yeux de Jack lorsqu'il aperçut Pa et Ma Atkin à travers la fenêtre. C'était l'heure du dîner, et ils s'étaient installés autour de la table familiale, aux places qu'ils avaient l'habitude d'occuper. Le ventre de Pa s'était encore distendu, les épaules affaissées, et de grossier, ses traits étaient devenus monstrueux. Il avait en revanche supprimé les trois mèches censées donner de l'élégance à sa face rustaude. Quant à Ma, son visage s'était tellement creusé que les os semblaient sur le point d'en crever la peau à chacun de ses mouvements. Il mangeait en silence, les yeux perdus dans le vague. Des volutes de fumée s'échappaient de leur assiette et du récipient de porcelaine synthétique, toujours le même, trônant au centre de la table. L'émotion étrangla Jack lorsqu'il constata que Ma avait mis un troisième couvert à la place qui avait été autrefois la sienne. Ils n'avaient jamais voulu croire à la disparition de leur fils, et ils agençaient leur quotidien comme s'ils vivaient toujours avec eux. L'école encore dont ils s'affublaient montrait qu'ils se consacraient toujours au culte creusien, mais ils n'en avaient pas pour autant renoncé à tout sentiment humain. Jake essuya ses yeux humides d'un revers de manche, puis ouvrit le petit portail de fer forgé qui donnait sur le jardin. Il traversa la bande de terre pelée en deux enjambées et se retrouva devant la porte d'entrée. L'identificateur de passage bricolé par Pa avait apparemment gardé ses empreintes cellulaires en mémoire, car aucun signal d'alarme ne retentit lorsqu'il posa la main sur la poignée. Le cœur battant, il poussa la porte et s'engouffra dans la pièce de plain-pied qui faisait office de cuisine, de salle à manger, de salon et, avant qu'il ne quitte la maison, de chambre à coucher. Alertés par le bruit, Pa et Ma Atkin levèrent en même temps les yeux sur lui. Son sourire se crispa lorsqu'il croisa leur regard éteint. Il le regardait sans le voir, comme s'il était transparent. « Pa, Ma, c'est moi, Jake. »«
Bon, on se connaît ?» demanda Pa en gonflant les joues.
Le sang de Jake se figea. Il se retint à grand-peine d'éclater en sanglots.
« Je suis Jack, votre fils, » insista-t-il d'une voix tremblante.
« De quoi parlez-vous? Nous n'avons jamais eu d'enfant, »
dit Ma en secouant la tête.
« Comment êtes-vous entré ?»«
L'identificateur de passage a gardé mes empreintes en mémoire. »
« Ah bon? Il va falloir que je le change, »
commenta Pa. Espace de quelques secondes, Jack se demanda si la translation n'avait pas altéré les fonctions de son cerveau, ou encore s'il n'allait pas se réveiller en sursaut dans la maison de Srilumpa sur Terra Mater. Puis il se dit qu'il avait grandi,
qu'il avait changé, qu'il ne l'avait pas reconnu, qu'il le prenait pour un cambrioleur ou un mendiant, et que c'était à lui de dissiper ce malentendu. Il prit une longue inspiration pour apaiser les battements désordonnés de son cœur et s'approcha de la table.
« Regardez-moi bien, c'est moi, Jack, votre fils !» cria-t-il. « Ça fait plus de 3 ans que je suis parti. Vous vouliez m'expédier dans l'école de propagande sacrée d'Oulbali. »
Tout en parlant, il scrutait le visage de ses parents, mais ses paroles ne rencontraient visiblement aucun écho en eux, et il continuait de le fixer d'un air hagard, stupide.
« Je me suis rendu chez un Carentin du nom d'Artrarak, la nuit où l'église a ordonné le gazage et le comblement du terrarium nord. »
Il prit soudain conscience que quelqu'un, un skaït effaceur sans doute, avait subtilisé une partie de leurs souvenirs, et les larmes trop longtemps contenues roulèrent sur ses joues. Il continua toutefois de parler, autant pour s'alléger d'un passé qui l'encombrait, que pour essayer de réveiller des souvenirs dans leur esprit engourdi.
« Le terrarium nord ?» demanda Pa. « Qu'est-ce que c'est ? Une usine ?»
« Au lieu de crier et de pleurer comme ça, vous feriez mieux de déguerpir et de nous laisser finir notre dîner, »
ajouta Man.
« Quand on pleure, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher, »
déclara Pa d'un ton sentencieux.
« Les gens qui ont la conscience tranquille ne pleurent pas. »
Jake ne tint pas compte de leur intervention. Les larmes éclataient sur ses lèvres, se pulvérisaient en gerbes éphémères et brillaient à quelques centimètres de sa bouche.
« Grâce à mon ami Carentin, j'ai échappé au gaz mortel. Je me suis retrouvé dans le désert nucléaire, où j'ai été recueilli par le Trar Godovan et ses aérotomiques. J'ai traversé une partie de l'espace à bord du vaisseau géant du viduc Papironda, et l'autre partie dans le compartiment intérieur d'un Xaxas, un migrateur céleste. Sur Terra Mater, le berceau du genre humain, j'ai connu Naya Fikit et sa fille Yel, avant qu'elle ne soit capturée par les mercenaires de Pritiv et livrée au moufti de l'église. Le Mati Shari m'a appris à voyager sur le son de vie, sur l'antra, et je suis venu vous saluer avant notre départ pour Siracusa. J'irai délivrer Yel parce que je l'aime et que je veux l'épouser. Je vais aussi bien que possible, même si vous me manquez parfois. Vous n'avez vraiment gardé aucun souvenir de moi ?
Pa secouait la tête avec une rare énergie pour quelqu'un qui paraissait si éteint.
« J'aimerais bien finir ma soupe avant qu'elle refroidisse, » gronda Man.
« Pourquoi avez-vous mis un couvert supplémentaire ? Vous attendiez quelqu'un ?»«
Une manie de Moratskin, » répondit Pa en haussant les épaules. « Elle prétend que c'est une bonne action que de réserver un couvert aux absents. »
« Les absents ?»«
Les morts, les disparus, les âmes qui errent au-dessus de nos têtes. Ils voient qu'on pense à eux et intercèdent en notre faveur auprès des saints de l'Église. »
Jake hocha la tête. Il se rendait compte que Yel, Naya Fikit, San Francisco et Phoenix constituaient dorénavant sa seule véritable famille. Il avait désormais hâte de partir. Hâte de quitter cette maison, cette ville, cette planète. Hâte de rejoindre le Mati Shari et d'orchestrer en sa compagnie la délivrance et la réanimation des 4 corps congelés. Il comprenait également les raisons qui l'avaient poussé à revenir sur les lieux de son enfance. Il devait couper définitivement les liens qui le reliaient à son passé pour devenir un véritable guerrier du silence. Le spectacle de ses parents effacés, réduits à l'état de loques humaines, l'ancrait dans sa résolution, le pressait de rattraper le temps perdu. Il était privé du plaisir de les toucher, de les étreindre, de se repaître de leur chaleur, mais il ne leur en tenait pas rigueur. Il lui suffisait de les aimer. Il lança un coup d'œil mi-amusé, mi-nostalgique à l'écran bulle de l'holovision posé sur une étagère. Un bol inutile et dérisoire de la richesse de la famille Atkin.
Au revoir,
dit-il en esquissant un sourire.
Au revoir, mon garçon, dit Pa. Ne vous trompez pas de maison la prochaine fois. Et n'oubliez pas de refermer la porte.
Man plongea résolument sa cuillère dans son assiette, sans plus se préoccuper de lui. La porte grinça légèrement sur ses gonds. Les deux satellites nocturnes du Gen faisaient leur apparition au-dessus des toits et teintaient de rouille l'épais manteau de brume. Une fois dans la rue, Jake hésita sur la direction à prendre. Bien qu'il eût en partie reconstitué ses forces, il préférait attendre avant d'entreprendre une nouvelle translation. Les ténèbres autour de lui semblaient abriter une foule de dangers. Il frissonna, remonta le col de sa tunique, croisa les bras sur sa poitrine mais ne parvint pas à se réchauffer. Il se souvint que les stations souterraines du RTA offraient une chaleur constante, même pendant la saison du grand hiver. À cette heure-ci, il n'y aurait que peu de monde, et il pourrait s'asseoir en attendant de recouvrer l'intégralité de ses facultés mentales et physiques. Il pressa le pas en direction d'une borne éclairée du RTA. Trois formes grises et blanches sortirent de l'obscurité et se déployèrent une dizaine de mètres devant lui. Des mercenaires de Prithiv dont les manches retroussées laissaient entrevoir les rails luisants de leurs lance-disques. Leurs yeux jetaient des éclats par les fentes oculaires de leurs masques. Jake eut besoin de quelques secondes pour appréhender la situation. Il regarda autour de lui et constata que ces trois-là n'étaient pas seuls. Il en surgissait d'autres de tous les côtés. Il lui sembla également discerner légèrement en retrait la cabas rouge d'un Skyte Inquisiteur.
« N'utilisez pas les disques !» gronda une voix. « Seulement les rayons cryo. Il nous le faut vivant !»
L'épouvante pétrifia Jake, incapable de remettre de l'ordre dans ses pensées. Son unique réaction fut de trembler de tous ses membres. Il entendit, comme sur Terra Mater quelques années plus tôt, le claquement de la culasse des cryogéniseurs. Les assaillants grouillaient maintenant autour de lui comme des mouches sur une charogne. Un éclair blanc illumina les ténèbres. En un réflexe instinctif, Jake rentra la tête dans les épaules. Le rayon lui frôla les cheveux et s'en alla percuter le bas d'un mur quelques mètres plus loin. Le mercenaire de Prithiv laissa échapper un juron de dépit amplifié par la cavité buccale de son masque. Ce mouvement d'esquisse tira Jake de son hébétude. Si ces hommes le capturaient, il serait exposé en compagnie de Yel, de Nayafikit et des deux Jérusalemines dans une pièce secrète du palais épiscopal de Vénitia. Et plus grave, il ne pourrait pas aider le Mahdi Shari à les libérer, à lutter contre le Blouf. Il discerna de nouveau le cliquetis d'une culasse, feignit de plonger sur sa gauche et se jeta sur sa droite. Le rayon griot crépita sur le sol, à l'endroit précis où il s'était tenu une demi-seconde plus tôt. Son pied heurta l'arête saillante d'un pavé. Il perdit l'équilibre et s'affala de tout son corps sur le dos. Il se rétablit aussitôt sur ses jambes et, ignorant la douleur qui lui cisaillait l'épaule, courut en louvoyant en direction d'un muret qui ceinturait une maison.
« Remuez-vous, bande d'incapables !»
glapit une voix.
« Ce satané gosse va nous filer entre les doigts !»
Ils hésitaient à tirer, de peur d'être eux-mêmes intoxiqués par les émanations des gaz cryogènes qui rendaient la visibilité presque nulle. Jake mit cette indécision à profit pour se rapprocher du muret. L'antra résonnait en sourdine dans un recoin de son esprit. Tout en courant, il s'efforça de chasser les pensées parasites et de rétablir le silence intérieur.
« Coupez-lui le chemin, bordel de Dieu !»
Ses gestes étaient maintenant d'une facilité, d'une fluidité étonnante. Il n'eut qu'à placer les mains en appui et à exploiter son élan pour franchir le muret. Il se reçut en souplesse sur une allée de cailloux plongée dans l'obscurité. Une nouvelle salve de rayons fusa au-dessus de sa tête et heurta la façade de la maison dont le crépi vola en éclats.
« De l'autre côté du mur! Si vous le laissez filer, je vous pendrai moi-même avec vos tripes !»
L'aboiement lointain d'un animal, un chien-lion domestique peut-être,
domina un instant le brouhaha. Jack se releva et contourna l'angle formé par les deux murs. Un rail de lumière s'échappait d'une porte entrouverte, éclairait de biais un massif fleuri et un buisson aux feuilles sanguines. Il n'avait guère d'autre choix que de se réfugier dans la maison, à demi enterrée comme celle de ses parents. Il s'engouffra dans le vestibule, repéra un escalier descendant qu'il emprunta sans hésitation. Il aperçut en contrebas deux formes qu'il prit d'abord pour des statues. Il dévala les marches quatre à quatre et ce n'est que lorsqu'il posa le pied sur le palier qu'il se rendit compte qu'il avait affaire à des êtres humains, les propriétaires de la maison sans doute. Vêtus de chemises de nuit eutygéniennes, figées dans l'embrasure d'une porte ogivale, ils ouvraient de grands yeux ahuris. Des sphères atomiques de chauffage flottaient sous le plafond lambrissé en émettant leur bourdonnement caractéristique.
« Comme êtes-vous ici ?»
demanda l'homme aussi corpulent et laid que Patskin.
« La porte d'entrée était ouverte ?» répondit Jake.
« C'est une bonne raison pour eux. »
Un fracas soudain provenant du vestibule l'interrompu.
« Ce sale gosse doit être en bas !»
vociféra un poursuivant.
« Que veulent-ils ?»
demanda la femme aussi douce et belle que Manhatskin l'avait été jadis.
« Me capturer, me congeler !» articula rapidement Jack. « Votre chambre ferme-t-elle la clé ?»
La femme acquiesça d'un mouvement de tête.
« J'ai besoin d'être seul pendant quelques secondes, »
ajouta-t-il. Les mercenaires de Pritiv s'étaient rués à leur tour dans la cage d'escalier. La femme s'effaça et, d'un geste de la main, invita le fuyard à s'introduire dans la pièce. Il lui adressa un sourire chaleureux avant de refermer la porte derrière lui et de brouiller le code du verrou magnétique. Pendant quelques instants, elle avait été une mère formidable. La mère à la fois belle, aimante et forte, dont il avait toujours rêvé.
« Mais tu es complètement folle !» protesta l'homme. « Tu... »
Elle lui intima l'ordre de se taire en lui posant la main sur les lèvres. Les mercenaires de Pritiv mirent 2 minutes à ouvrir la porte dont ils découpèrent le panneau supérieur à l'aide d'une poire à rayons désintégrants. Cependant, ils eurent beau passer la chambre au peigne fin, l'enfant demeura introuvable. La voix vibrante métallique du Skaït Inquisiteur brisa le silence qui retombait sur la maison. Inutile d'insister.
« Vous avez une idée de la manière dont il est sorti de cette pièce ?»
demanda Lovat des mercenaires de Pritiv. « Pas la moindre, » mentit Kiax. Il se retourna et pointa le bras vers le couple d'Anjoriens prostré sur un divan. « Je sais en tout cas que cette femme et cet homme l'ont aidé dans sa fuite. »
« Je n'étais pas d'accord !»
plaida l'homme en se redressant. La femme releva la tête et lui décocha un regard à la fois stupéfait et méprisant. Les yeux uniformément jaunes du Skaït brillaient comme des astres maléfiques dans la pénombre de son capuchon.
« Pourquoi ne portez-vous pas un col en corps de nuit, conformément aux préceptes de notre Sainte Église ?»«
C'est elle !»
bredouilla l'homme en désignant sa compagne. Ses iris noirs, agrandis par la peur, se posaient comme des oiseaux pris au piège sur les replis de la caba pourpre.
« Elle trouve ridicule le col en corps et elle... elle se refuse à moi si je ne cède pas à ses caprices. »«
L'abstinence est une vertu, » déclara le Skaït.
« Que faisons-nous d'eux ?»
demanda Lovat. « Emmenez-les à la prison du temple. » « Ils seront jugés demain matin par le tribunal de la Sainte Inquisition. Si vous le souhaitez, vous pouvez auparavant vous amuser avec la femme pour lui faire passer le goût de la rébellion. »«
Non !»
hurla l'homme en tombant à genoux.
« Inutile de vous agiter de la sorte, sieur. Le tribunal ne vous condamnera qu'à un effacement léger si vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. »
Mais Kiax savait d'ores et déjà que les nombreux manquements de cet Anjorien au code creutzien des tolérances conjugales lui vaudraient à lui et à son épouse le supplice de la croix de feu à combustion lente. Le Skaït activa le contact mental avec Orax. L'enfant s'est échappé, mais il a divulgué quelques informations orales intéressantes chez ses parents biologiques.
Précisé. Il vit sur Terra Mater avec un personnage que les probabilités avaient estimé comme un pur produit de la conscience collective humaine. le Mahdi Chari des Imlias. Il prépare une expédition sur Syracusa pour libérer Nayafikit et les trois autres criots.
Rectification, Germe Kiax. La thèse de la non-existence du Mahdi Chari servait jusqu'alors nos intérêts. Mais cela fait plus de 3 années standard que le général Harcourt attend sa venue sur Syracusa. Votre échec dans la capture de ce garçon, un guerrier du silence à plus de 50%, n'aura donc aucune conséquence néfaste.
Au contraire, son emprisonnement aurait éveillé la méfiance du Mahdi Chari et l'aurait peut-être dissuadé de s'aventurer sur la planète impériale.
Vos implants cérébraux ont gagné en efficacité, Germe Kiax. La cuve ne vous a donc pas complètement raté. Loué soit votre maladresse. Fin de notre communication. Je me dois maintenant d'alerter nos relais.
Kiax contempla l'Anjorien affaissé à ses pieds, secoué de sanglots. La femme, immobile sur le divan, n'esquissa pas un geste de défense lorsque les mercenaires de Prithiv la saisirent par les bras, la soulevèrent et lui arrachèrent sa chemise de nuit.